Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. C'est reparti pour une nouvelle année de chronique en ce début d'année 2023 pour Billets d'Europe. Alors bien sûr, je vais commencer en vous souhaitant une excellente année 2023. Et pour démarrer, Daniel, on va parler aujourd'hui de la réconciliation franco-allemande. Je vais d'abord vous demander pourquoi cette préoccupation bien grave au lendemain des fêtes de fin d'année.
Alors avant de vous répondre, Yann, d'abord bonne année à vous évidemment et meilleurs vœux à tous les auditeurs donc de la station. Je vous réponds, écoutez, crise sanitaire, guerre en Ukraine, le moins qu'on puisse dire c'est que les temps sont durs pour l'Union et pour son moteur franco-allemand. Or, durant ces derniers mois, un froid a paru s'installer dans la relation privilégiée qu'entretiennent la France et l'Allemagne, je vous le rappelle, deux des pays fondateurs de la communauté européenne. Cette relation est pourtant à la base du projet européen et constitue le facteur principal de sa réalisation. C'est bien ce que traduit d'ailleurs l'expression « moteur de l'Europe ». Or, si le moteur tousse, bien sûr, c'est l'Union européenne qui risque la panne, d'où, me semble-t-il, la nécessité de se pencher sur cette relation franco-allemande de 1945 à aujourd'hui.
Ah oui, depuis 1945, mais le projet européen voit le jour dans les années 50. Pourquoi remonter au lendemain de guerre ?
Alors, pour la réalisation du projet, en effet, ce sont les années 50, mais son fondement, à savoir la réconciliation des deux pays, complètement chimérique, évidemment, en 1945, s'impose à la France avant la fin des années 40. En effet, au lendemain de la capitulation allemande, sur l'insistance de Churchill, qui craignait pour son pays de se retrouver seul face aux soviétiques, notamment, la France est admise aux côtés de l'URSS, des États-Unis et du Royaume-Uni dans le camp des vainqueurs de la guerre. À ce titre, elle est puissance occupante dans le sud-ouest allemand, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, dans le Bade-Württemberg, ainsi que dans deux districts berlinois. Par ailleurs, collée à la frontière française, la Sarre, bien que dotée d'une souveraineté interne, devient un État sous protectorat français. Alors pour la France, en 1945, quelle est la question ? Eh bien, c'est comment faire pour que l'Allemagne ne constitue plus jamais une menace ? La réponse est unanime. Empêcher la renaissance de la puissance allemande, notamment économique et industrielle, par une politique de fermeté, voire davantage, d'où l'opposition française à la reconstitution des cartels et le prélèvement des ressources allemandes, notamment charbonnières, précieuses pour la reconstruction économique française. Mais cette politique a un coût. Tensions avec les Allemands, désaccords avec les alliés occidentaux, frictions croissantes avec les Américains, d'autant plus favorables au relèvement rapide de la partie occidentale allemande que les relations se dégradent rapidement avec l'URSS en 1947. Cette politique de fermeté devient une impasse quand le blocus de Berlin de juin 48 à mai 49 montre que la menace n'est plus allemande mais soviétique, que cette menace concerne l'Allemagne occidentale en première ligne. Il convient donc de faire renaître politiquement le pays, ce sera la création de la RFA le 24 mai 1949, et d'accélérer sa reconstruction économique. Pour la France, il s'agit d'intégrer l'Allemagne renaissante dans une organisation européenne de solidarité politique et économique. C'est un tournant historique, et ce tournant historique de la politique française va s'inscrire dans une proposition célèbre de main tendue à l'Allemagne que nous connaissons tous, la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui acte la naissance de la communauté européenne permise par la réconciliation de la France et de l'Allemagne.
Alors réconciliation, mais avec Charles de Gaulle, on parle d'amitié franco-allemande, Daniel.
C'est vrai. Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en mai 58, compte tenu de l'opposition gaulliste virulente à la communauté européenne du charbon et de l'acier, bien sûr à la communauté européenne de défense et à la CE, l'incertitude est grande quant à l'avenir de l'Europe communautaire. Mais dès septembre, le chancelier Adenauer, en visite à Colombey, reçoit l'assurance de la poursuite de l'engagement français dans le projet européen et noue avec son hôte une relation personnelle très forte. Dans les mois qui suivent, De Gaulle multiplie les gestes appréciés en Allemagne, notamment en 1962, lors d'un voyage au cours duquel il prononce son fameux discours à la jeunesse allemande. Mais sur le projet européen, la mésentente est réelle. Si De Gaulle admet que les institutions européennes ont un intérêt technique, il refuse toute idée de supranationalité, considérant que, j'ouvre les guillemets, l'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. La proposition française d'une politique européenne et d'une défense commune sur une base de coopération intergouvernementale, portée par le plan Fouché en 61 et encore en 62, est retoquée par les Allemands. Après le départ d'Adenauer, les divergences s'accentuent avec les successeurs. Veto français à la candidature britannique en 63 et encore en 67, et surtout crise de la chaise vide en 1965. Pourtant, paradoxalement, cette mésentente sur l'Europe provoque une intensification de la relation franco-allemande. Le 22 janvier 1963, la signature du traité de coopération franco-allemand, dit encore traité de l'Élysée ou traité d'amitié, bien qu'amendé par la partie allemande, ouvre une ère de coopération large et approfondie, dont l'un des symboles forts jusqu'à nos jours s'appelle l'OFAGE, Office franco-allemand de la jeunesse.
Alors cette relation très personnelle que De Gaulle a nouée avec l'Allemagne, son successeur Georges Pompidou l'a-t-il poursuivi ?
Ah, la réponse n'est pas évidente. Bien que conscient de la nécessité de relancer le projet européen, le rapport de Pompidou à l'Allemagne est plus distant et les relations personnelles avec le chancelier de l'époque, le social-démocrate Willy Brandt, moins complices. La politique allemande d'ouverture vers l'Est, hein, ce qu'on appelle l'Ostpolitik, et le différentiel de puissance économique qui s'accentue entre les deux pays en faveur de l'Allemagne inquiète en France. Néanmoins, la coopération, notamment culturelle, s'approfondit. Ainsi, en 1972, sont créés trois lycées franco-allemands. Et face aux crises du début des années 70, que l'on a un peu oublié, hein, c'est dommage, la dévaluation du dollar, la guerre du Kippour, le premier choc pétrolier, la France et l'Allemagne montrent une solidarité européenne qui infirme la thèse longtemps répandue d'une crise du couple franco-allemand. Mais il est vrai qu'à partir de 1974, le projet européen connaît une puissante dynamique qui affadit à l'évidence le bilan européen des deux premiers présidents de la Ve République.